à voix nue. Toute cette semaine, Jérôme Sandelard rencontre Manu Dibango. Ce soir, 3 kilos de café.
Bonsoir Manu Dibango.
Bonsoir cher ami.
Hier, donc, nous évoquions votre enfance à Douala, au Cameroun, votre éducation protestante, vos premiers émois musicaux, votre départ pour la France, ô combien douloureux, pour poursuivre les études. Et donc, nous avons quitté sur le quai de Marseille. Vous attendiez votre correspondant, qui a tardé à arriver. Et puis de là, vous partez avec lui pour rejoindre Saint-Calais dans la Sarthe.
Voilà, j'ai donc atterri dans la famille Chevalier de Saint-Calais. Donc, Claude, il est instituteur. Bon, donc il a eu du retard, il est arrivé, bon, c'est pas difficile, j'étais seul sur le quai, et il était seul à regarder, et puis je regardais la photo. Alors, tu sais, regarder la photo pendant longtemps sans voir quelqu'un arriver, c'est terrible, hein, je veux dire. T'as aucun repère, t'as carrément aucun repère, il n'y a pas la terre battue, il n'y a personne qui te ressemble. Voilà, tu entres dans un autre monde, dans un autre univers. Finalement, il est arrivé et puis on devait traîner à Marseille parce que le train, locomotive à vapeur à cette époque-là, hein, ça ne partait que le soir. Donc, il partait vers 20 heures. Il mettait 12 heures à l'époque pour faire Marseille-Paris. Et donc, toute la journée, on s'est baladé là où il pouvait, parce que lui aussi faisait du tourisme, il n'était pas de cette région-là, lui. Hein. Et partout où il allait, forcément, je le suivais. On avait mis les affaires dans une espèce de consigne, voilà, et puis donc on pouvait se promener. Et puis c'est la première fois que j'ai bu du vin, d'ailleurs, parce que à midi, il m'a amené dans un espèce de petit restaurant. Et c'est là où j'ai vu du vin rouge et du vin blanc. Alors moi je voulais mélanger et il me dit non, fais pas ça. Bon, des trucs comme ça. Et puis on a attendu le soir prendre le train. Alors deuxième gag quand même, c'est que il n'y avait pas de place, donc on était obligé de voyager pratiquement debout pendant 12 heures. Faire donc Marseille-Montparnasse. Hein,
mais là, voilà. J'imagine que vous en preniez plein les mirettes, Manu Dibango.
Ah ouais, bah, attends, quoi, j'ai pris sérieusement, je veux dire, souhait de bonne arrivée, c'était là. Hein. Tu es dans ton bonheur d'être là et dans ta tristesse de ne plus avoir... T'as les deux en même temps.
Et comment ça se passait? Vous le rémunériez, cet instituteur donc qui vous a accueilli?
Ben, le deal, c'était que on payait la pension mensuelle chez eux. Ils acceptaient donc comme tout ceux qui avaient donc des petits Africains à l'époque chez eux, la pension équivalait plus ou moins. C'est pour ça que j'ai fait un livre qui s'appelait 3 kilos de café. C'est que le café était une denrée très rare.
Après-guerre.
Hein, c'était... Quand tu sentais l'odeur de café torréfié dans un quartier, tu sentais vraiment le café, quoi.
Et parce que là, je précise qu'on est en 1949.
Voilà, au printemps 49. Et donc, moi, j'avais amené 3 kilos de café. Mais disons que ceux qui avaient des parents qui étaient planteurs et tout ça, ils payaient donc la pension par 3 kilos de café, qui arrivait une fois par mois. Parce qu'en fait... Quand on t'écrivait, la lettre mettait un mois, hein, et tout, les colis mettaient un mois aussi pour arriver. Donc, à la limite, quand ton père t'engueulait, t'avais ça un mois après, quoi.
Donc là, je précise, vous débarquez à Saint-Calais, 1949, Manu Dibango. Cet instituteur, vous l'avez pas précisé, mais il est assez sévère. Et puis, vous êtes un des seuls noirs, j'imagine, à Saint-Calais. Enfin, je sais pas comment les gens réagissent à cette époque-là. Comment vous les percevez?
Bien, je suis seul noir. Hein, donc, je suis déjà une vedette.
Avant l'heure.
Avant moi, ils n'ont connu que des GI pendant la guerre. Donc, libération, des noirs américains qui étaient de passage, ils n'ont pas eu le temps. Donc, en fait, quand je suis arrivé, j'étais plutôt bien accueilli parce que j'étais un peu l'attraction du coin, et tout ça. Tout le monde voulait me toucher pour voir si ça tachait. En fait, tous les clichés, on touchait mes cheveux crépus, mais moi aussi, je touchais les cheveux lisses des autres. On commençait à se connaître à travers les, tu vois, on se tâtait, quoi, je veux dire. C'est l'être humain, hein, on se touche et tout ça. Et il faut pas voir là-dedans un geste de quoi que ce soit autre que la curiosité, parce qu'après, on peut dire c'est du racisme, c'est du machin. Le racisme, c'était la porte à côté, c'était pas ça. Ça a d'autres critères, le racisme. Là, c'était la curiosité.
Est-ce que vous écoutiez de la musique? Est-ce que vous découvriez la radio à cette époque-là ou...
Eh ben, ils avaient un poste. Hein, parce qu'à l'époque, c'était quand même Telefunken et les grands postes au milieu du salon et tout ça. Et on écoutait les radios Luxembourg, Rennes d'un jour, tous ces trucs-là. Enfin, tout ce qu'on
C'était quoi la
écoutait à
famille
la radio, quoi.
Duranton?
La
La famille
famille
Duranton?
Duraton, plus tard. Mais tous les jeux qui étaient là, Zappy Max, enfin, pour ceux qui ont connu Zappy Max et tout ça. Jean Nohain, hein, avec ses Rennes d'un jour. Et puis tous les jeux qu'il y avait à la radio, puisqu'il n'y avait pas encore la télévision. En fait, il y avait combien de gens qui avaient des postes de télévision? C'était plutôt tout se passait à la radio et surtout le Tour de France. Moi, j'adorais le vélo parce que à Douala, mon oncle qui avait épousé ma tante et il faisait du vélo. Alors tous les 14 juillet et les 27 août, il y avait des courses de bicyclette et nous, la veille, on était des supporters, on allait nettoyer son vélo et tout ça. Bon, donc voilà, j'étais familier avec le vélo, si bien que le Tour de France, je l'ai adopté tout de suite.
Et musicalement, il y avait déjà des artistes qui vous captaient votre attention, Manu Dibango?
Oh, un seul à l'époque me captait beaucoup, c'était Charles Trenet parce qu'il avait des mélodies un peu jazzy quoi. En fait, j'avais une oreille jazzy parce que quand tu sors de l'église en général, les mélodies qui sortent des églises, souvent les trois quarts des Américains, ils sortent des temples en général. Hein. Voilà, il y a du gospel en l'air et tout ça. Et bon, de temps en temps, on entendait Louis Armstrong. On savait pas qui il était, mais il avait une voix rocailleuse. Et puis, il chantait bien. Il chantait La vie en rose. Il chantait C'est si bon. Donc, tu avais les paroles, mais il y avait la trompette. Il y avait tous ces trucs-là qui t'amenaient petit à petit vers là où tu devais aller plus tard, quoi.
Il y avait Duke Ellington
Ah, ça, c'est
aussi.
plus tard. C'était déjà un peu plus mûr. Duke Ellington, c'est quand j'étais dans les colonies de vacances. Ah, j'ai vécu 2 ans, donc, sans voir un noir, hein, voilà. Et il y avait un blues incroyable, parce que j'étais seul. Et puis, il n'y avait pas tellement de bagnoles là où j'habitais. Il n'y avait que des voitures à chevaux, parce que c'est la campagne et tout ça. Et moi qui rêvais de venir en France pour voir des bagnoles et tout ça, de là où j'habitais, tu voyais, tu entendais tout le temps le son des sabots des chevaux passer. Il y avait 2 ou 3 personnes autour de moi qui avaient une voiture. Hein. Le principal du collège s'appelait Monsieur Gors. Il avait acheté la première Peugeot de l'après-guerre là et tout ça. Et puis il y avait un instituteur qui avait une voiture et un autre qui avait une moto. Tout le restant c'était vélo et puis voiture à cheval quoi. Donc tu as ce blues et puis tu ne vois personne de qui te ressemble. C'est terrible, hein, c'est éprouvant. Bon, plus tard, je suis allé plus en plus, j'ai quitté le coin pour aller à Chartres, au lycée de Chartres. Là, j'ai rencontré des Africains.
Et à l'époque, est-ce que vous jouiez déjà d'un instrument de musique?
La mandoline, parce que la mandoline n'était pas chère et puis on pouvait la trimballer partout. Et les leçons de piano, c'est arrivé plus tard. Hein. Quand je suis allé à Épernay, j'ai eu un prof de piano parce qu'il y avait 2 ou 3 copains qui faisaient du piano et moi je voulais faire ça aussi. Donc c'est pas à partir d'Épernay en fait que j'ai commencé à apprendre la musique quoi, de façon classique, hein, la méthode Rose et tout le bazar là.
Donc vous avez appris le solfège, vous êtes passé au
Oui,
conservatoire?
mais parce que conservatoire, non, mais professeur, oui. Parce qu'à l'époque, quand tu voulais apprendre un instrument, il y avait toujours un professeur, hein, comme la gym et tout ça. À l'école, il y avait toujours des profs au lycée ou au collège, qui étaient les plus chahutés d'ailleurs. Les profs de musique, les profs de gym, c'est épouvantable. Hein. Bon, mais enfin, comme j'aimais ça, ils voyaient bien que j'étais accroché à ça. Voilà, ben, j'ai eu quelques profs après dans ma vie, quoi.
Alors à Reims, puisque vous parlez de Château-Thierry, c'est ça? Puis vous finissez vos études à Reims?
Je finis à Reims. Pourquoi? Je loupe mon deuxième bac, là. Pourquoi? Parce que ben, j'étais dans les caves plus que, plus que dans les bancs.
Vous commenciez déjà à tourner un petit peu, fréquenter les clubs, quoi.
Je fréquentais les clubs. On faisait du stop de Reims à Paris pour aller à l'Alhambra Maurice Chevalier, qui existait à l'époque, pour écouter des orchestres de jazz vers 11h. Il y avait une émission qui s'appelait Jazz Variété et qui était tous les dimanches à 11h, tu vois, et avec tous les Américains qui passaient, noirs, blancs, qui passaient à Paris, devaient passer là, ils jouaient dans des clubs. Mais le dimanche matin, il faisait des apparitions là, les Don Byas, les Sidney Bechet, en fait, tout ça. Bechet, lui, s'est installé après. Bill Coleman aussi, tous ces premiers là qui se sont installés. Mais il y en a d'autres qui étaient de passage. Voilà, donc on faisait du stop à partir de 5 heures du matin, en sortant du club, on allait là, voilà.
Et dans la préface de votre autobiographie, 3 kilos de café, qui est paru donc en 89, vous dites « Sans héros, la vie ne sonne pas. À ces héros qui m'accompagnent dans la vie, ils n'ont jamais été détrônés. » Qui sont ces héros? Quels vous faites allusion?
C'est important de ne pas avoir des héros bidons quand même au départ.
C'est mieux.
C'est mieux d'avoir quand même des mecs qui ont quelque chose quand même au moins. Ça justifie ton passage sur cette terre, quoi. Tu tombes amoureux des chanteurs tocards là et tout ça. Plus tard, ce sont tes références, mais c'est terrible, quoi. Mais quand même, tomber amoureux de Duke Ellington, ça a de la gueule, quand même.
Et donc, il y avait qui d'autre au Panthéon?
Oh, ben, il y avait Count Basie, il y avait Duke Ellington, il y avait...
Coltrane?
Il n'était pas encore, il est arrivé plus tard.
Un peu plus tard, Charlie Parker.
Par contre, il y a eu Parker, puisqu'il y avait la guerre des comme toujours en France, les anciens et les modernes, hein. Je veux dire, il y avait Hugues Panassier qui s'occupait du jazz Nouvelle-Orléans et pour qui Charlie Parker faisait pas de la musique noire, parce que pour lui, la musique noire, c'était la musique chant du canton, souffrance et tout ça. Bon, Delaunay, la famille Delaunay, Charles Delaunay, c'est une grande famille intellectuelle, des peintres et tout ça. Eux, ils étaient dans le jazz contemporain. Donc évidemment, il y avait cette guerre entre le jazz haute et le jazz des joutes sévères. On lisait les magazines, c'était formidable.
Alors, ce qui est quand même surprenant, Manu Dibango, c'est que parmi ces héros, c'était essentiellement des Noirs américains. Il n'y avait pas d'Africains à l'époque qui étaient vos modèles.
Ben non, à l'époque, il n'y avait pas encore d'Africains, de toute façon, ici. Et puis moi, je suis parti de chez moi, je ne connaissais pas la culture africaine, on ne peut pas dire. Et puis, quelle Afrique? Je sors d'un quartier, je ne connais même pas tout le Cameroun. Il faut mettre les choses comme elles étaient. Dans le contexte. Parler même de culture africaine à cette époque-là, ça n'existait pas. Le seul truc qui existait ici, au début des années 50, c'était les ballets africains que un Guinéen avait monté. Un Guinéen, c'était Keita Fodeba, qui est devenu ministre en Guinée, Sékou Touré, qui, bon, comme pas mal de ministres, s'est fait tuer, hein, assassiné là-bas. Mais c'est le seul qui a monté le premier ballet africain ici en France. C'est plutôt tous des étudiants venant de tous les pays africains qui savaient un peu danser. Il y avait même des Antillais. Il suffisait d'être noir, quoi, en fait.
Et pour en revenir aux Noirs américains, qu'est-ce qui vous fascinait chez eux?
Ben, le fait que c'est la réussite. Hein? On les voyait partout. Il n'y avait pas la télé, mais on voyait au cinéma. Il y avait tous les articles sur eux. C'était des vedettes.
Des
modèles. Ben, naturellement, oui. C'est... Écoute, je veux dire, ressembler à Lester Young, c'est bien. Hein? Ressembler à Armstrong, c'est pas mal non plus. Bon, même si t'es pas noir, hein. Bon, en plus si t'es noir, ça te valorise, quoi. Tu vois.
Voilà. C'était l'époque de ce film Jamin the Blues, dans lequel il y avait Lester Young.
C'était le seul film, d'ailleurs, qu'on a regardé des centaines de fois, tu vois.
Très
parce
beau,
que il y avait ce mythe de la fumée qui se dégageait du chapeau du gars. Enfin, c'était très bien filmé, le noir et blanc, là, tu vois.
Manu Dibango, c'est à cette époque-là que vous faites la rencontre de Francis Bébé?
Oui, j'ai rencontré Francis Bébé en 51, la première colonie de vacances de Camerounais, parce que le Cameroun ne fait jamais les trucs comme les autres. Alors, je l'ai rencontré dans une colonie de vacances.
Quelques mots sur lui,
Alors, Francis, c'était mon idole, hein, c'est ma deuxième idole, c'est mon deuxième idole.
Après le maître de
Pourquoi?
chorale qu'on évoquait
Voilà,
hier.
voilà, voilà. Et c'était dans la colonie. D'ailleurs, elle a épousé ma cousine, alors c'est pas difficile. Qu'il a connu également dans la colonie de vacances. Il y avait une colonie de vacances. Il y avait des colonies de vacances pour Africains. Une à Nancy, une à Aix-en-Provence, une du côté de Paris, à Clamart, je crois. Et puis, en 51, le Cameroun, la délégation camerounaise, parce que c'était pas encore le Cameroun, disons, on était encore colonisé, mais il y avait tout de même une représentation camerounaise, la délégation qui était à la rue Murillo, pas loin de l'avenue Hoche. Et là, le Cameroun donc, a décidé de faire une colonie de vacances pour Camerounais, déjà. Hein, étant donné qu'on n'était pas colonie, patati patata. La première, elle a eu donc lieu à Saint-Germain-en-Laye, chez des curés. Et c'est là où les Camerounais, d'ailleurs, ont commencé à se connaître, parce qu'on ne se connaissait pas non plus. Hein, les mecs de Douala connaissaient pas les mecs de Yaoundé et tout ça. C'est la colonie qui a commencé à préparer la première élite, la mouture de la première élite camerounaise. C'est là où les gens ont commencé à apprendre à se connaître. Alors, il n'y avait pas beaucoup de filles, hein? Donc il y avait peut-être, je sais pas, sur une colo de 100, 120 personnes, il y avait peut-être 5, 6 filles. Alors je veux dire que c'était à course, hein? Enfin, ça c'est un autre
Alors,
problème. Francis.
ne nous égarons pas. Revenons à
Ah
Francis
non, mais je ne
Bébé.
m'égare pas parce que Francis.
Francis Bébé, alors.
Donc il jouait la guitare.
Musicien camerounais, écrivain, compositeur.
Écrivain par la suite, hein, au
Voilà,
départ, là
journaliste,
déjà,
guitariste. Enfin bon, il a.
guitariste.
Ouais.
C'est le guitariste d'abord qui m'a intéressé. Et c'est le guitariste qui était fin connaisseur du jazz qui m'a ouvert un peu les yeux sur le jazz, les 12 mesures de blues, qu'est-ce que ça signifiait et tout ça. Et voilà, ça a été mon idole pendant très longtemps. Et par la suite, on s'est fréquenté longtemps, longtemps, longtemps.
Moi, il y a une chanson qui m'a marqué, mais vous allez me l'entonner peut-être, c'est Agatha.
Agatha, ne me mens pas, ce n'est pas mon fils. Ah ben ouais, ben ton fils, ben il change pas de couleur, hein, c'est bizarre ça.
Ouais, c'est
Qu'est-ce
l'histoire,
qui
c'est
s'est
ça.
passé en route? Il n'a pas pris la couleur locale et tout. Et il était humoriste aussi, hein. Il avait beaucoup d'humour, Francis.
Donc,
Bon
il raconte l'histoire
compositeur.
d'un gars dont la femme est allée un peu traîner ailleurs et qui revient,
Ben
qui est donc une femme noire et qui revient avec un enfant qui est blanc. Il se dit non, c'est pas possible, c'est pas le mien.
oui. Ce qui est bien, c'est que la morale, c'est que tous les enfants du monde sont bienvenus, quoi. Voilà, ça c'est la morale. Mais bon, quand tu prends pas la couleur locale, tu t'inquiètes quand même.
Est-ce que vous nourrissiez à l'époque, Manu Dibango, un complexe vis-à-vis de ces héros noirs qu'on évoquait il y a quelques instants? Et puis il y en avait d'autres d'ailleurs. Il y avait Ray Sugar Robinson dans la boxe. Il y
Oui,
avait
il y
Chester
avait
Himes aussi qui comptait pour vous,
Chester Himes, c'est venu après, mais
l'écrivain, New
disons
Yorkais.
qu'il y avait les basketteurs là, les Harlem Globetrotters, qui avaient une équipe formidable, c'est pour l'exhibition quoi. Ça te donnait envie de jouer au basket après. Tout ce qui venait des États-Unis, de toute façon, était bon à l'époque. On faisait pas venir des tocards, hein, je veux dire. Donc il y avait une sélection déjà au départ. Tu entrais, si tu étais dans le milieu de ceux qui aimaient le jazz, parce qu'il y en a qui aimaient la musique latino, Pérez Prado, Tito Puente, tout ça, il y a des gens qui aimaient la musique latino, mais il y en a qui aimaient le jazz, qui était une gymnastique un peu plus intellectuelle et tout ça. Donc tu fréquentais le quartier latin, tu fréquentais le tabou, toutes les boîtes, tu fréquentais le vieux Colombier, hein, en bas du théâtre Vieux Colombier. C'est là où Sidney Bechet jouait, tu fréquentais le Trois Maillets, et c'est là où Bill Coleman et les Guy Lafitte et tout ça, ils jouaient. Donc
C'est
il y avait,
Saint-Germain-des-Prés de Boris Vian, enfin,
eh ben
c'est
voilà,
là.
Boris Vian, il était là avec sa petite trompette là et tout ça, et en même temps un critique fabuleux, parce que c'est quand il y avait ces bagarres d'anciens et modernes, quand tu lisais une critique de jazz faite par Boris Vian, ça quand même, bah, voilà, je veux dire, il te décortiquait un disque de Duke. Ton problème à toi, c'était d'économiser, d'aller l'acheter après, quoi.
D'ailleurs, c'est pas le
Voilà.
premier disque que vous avez acheté.
Et c'est Duke.
Hein, c'est ça?
hein,
Concerto for
j'ai acheté ça à
Quincy.
Château Thierry parce que c'est le seul qui restait. Bon, coup de bol, c'est un chef-d'œuvre. Donc j'ai commencé par ça.
C'était quoi ce disque?
C'était Morning Glory. Alors Morning Glory, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas la gloire du matin, mais c'est une fleur qui te rend toute chose. Voilà.
On citait Louis Armstrong. Qu'est-ce qu'il vous a apporté? En quoi ça a pu être un modèle, Louis Armstrong? Finalement, parce que c'était à la fois un musicien et quelqu'un qui jouait avec sa voix. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va
En
vous
fait,
influencer?
Armstrong, en réalité, c'est un homme du music-hall. Et moi, j'aime beaucoup le music-hall, hein, parce qu'il y a tout dans le music-hall. Il y a l'acte, il y a la musique, il y a le chant, et il y a du théâtre. Il y a tout dans le music-hall. Et instinctivement, j'aimais Armstrong parce qu'il avait le don de créer une atmosphère, la joie, quoi, je veux dire. Puis il jouait si bien la trompette, il avait une voix éraillée, il sonnait différemment de tout le monde. Que tu entendais autour de toi, et puis je veux dire qu'un génie ça se reconnaît, hein, je veux dire, voilà. Mais quand tu as connu les Quincy Jones, arrangeurs, que tu as connu tous les grands en fait, et que tu les as connus, Body and Soul, tu les as connus vraiment
En chair en os.
en chair et en os, quoi, je veux dire. Bon, maintenant les gens ils parlent du jazz, mais ils parlent que de ce qu'ils ont entendu et peut-être lu. Moi, il se trouve que les Sonny Rollins, les Stan Guest et tout ça, je les ai connus, je
Vous
les
avez
ai
touché.
fréquentés. Voilà, ne serait-ce que dire bonjour, j'ai passé une après-midi avec Dizzy Gillespie, à le regarder, rien que le regarder, nettoyer sa trompette, c'était un bonheur.
À l'époque, c'est à cette époque-là que vous avez commencé à écumer les bals de campagne aussi, à jouer en groupe.
Oui, donc j'avais un prof de saxe qui le samedi jouait, ça c'était à Reims, hein, il jouait dans un truc, je sais plus comment ça s'appelle la boîte en question. Et il me dit, mais Manu, ben, viens de temps en temps, ok. Bon, je connaissais deux morceaux, hein, attends, pas non plus. Mais le samedi soir j'allais, et puis ça plaisait bien, et puis. Bon, un noir qui jouait, il n'était pas américain, mais il était noir. Il y avait le mythe quand même du noir qui aligne les choruses. Alors moi, j'avais un saxo avec des élastiques et tout quand même. Mais bon, bref, je jouais au Wends et Sens, et puis je sais pas quel
When
autre
the sense
morceau.
go marching
Voilà, le plus facile, quoi. Et bon, ils étaient contents, ils me donnaient une petite pièce. Ah, la pièce, elle est arrivée, là, tu vois, la pièce m'a tué après.
Ah, c'est ça. L'argent.
Voilà, au fur et à mesure, donc je commençais à faire ces trucs-là, et puis à jouer à la Cerisée le dimanche après-midi, parce qu'il y avait un autre musicien. Enfin, c'est une histoire.
Vous jouiez quoi à l'époque?
Ben,
De
par
boléro,
contre,
autre chose déjà?
tu joues tout. Ouais, quand
Ouais.
tu joues pour la danse, c'est même la meilleure école, parce que. Le public, c'est là où les gens se marient souvent, hein, dans les bals et tout ça. À l'époque, maintenant, avec la techno et tout ça, les choses ont changé. Mais quand tu vas dans la France profonde de cette époque-là, avec des bagnoles, il n'y avait pas de chauffage, c'était des résistances. Oh, c'était drôle, hein, de faire la campagne, d'aller après-midi, il y avait un chauffage central, tout le monde arrivait, on se chauffait, tout ça. Bon, tu joues tout, tango, paso doble, bolero, un peu du jazz.
Begin, peut-être, non, déjà?
Hein?
Begin, à l'époque? Pas de la Begin antillaise,
Oh, pas
c'était un peu.
beaucoup, non. La Begin, par contre, elle était consommée à Paris au vieux, comment ça s'appelait, le Blomet, à la rue Blomet. Il y avait une boîte, un bal nègre.
C'était l'époque où Luis Mariano, Pérez Prado, tout ça, c'est.
En même temps,
Hein?
en même temps,
C'est ça.
en même temps. Mariano, j'adorais parce que j'aime les belles voix, qu'il avait une belle voix, tout simplement. Puis l'opérette, c'était ça. C'est la comédie musicale en France, en fait, c'était l'opérette, hein.
Alors, l'amour, ce qui est surprenant, c'est que l'amour pour le saxophone n'est pas venu immédiatement, Manu Dibango.
Non, il est venu au moins en deux temps. En deux temps, pourquoi? Parce que j'avais un copain qui jouait du sax, mais j'adorais l'instrument. Bon, ben, j'avais pas les moyens de me payer l'instrument. Mais la façon dont est fait le saxo, je regardais tous ces boutons, toutes ces clés, là, j'étais fasciné par ça, quoi. C'est la fascination, sans avoir le rêve qu'un jour tu pourrais le jouer. Voilà. Et nous allons en colonie de vacances, c'était à Saint-Hilaire-du-Harcouët, du côté de la, pas loin de Granville, voilà, Normandie, là. Et là, il y avait un piano, comme dans toutes les colos. Le piano était faux, bien sûr. Je tapais la tuile, donc je réveillais les gens, j'enquiquinais les copains et tout. Il y avait un copain qui avait un sax. Il me dit, puisque tu dis que t'es musicien, essaie ça. Ah, disons, bon, je prends. Voilà, ça n'a pas été le coup de foudre, hein, tout de suite, quand même. Franchement, ça a pas été, ça chatouillait et tout ça,
Les lèvres.
les lèvres, mais bon, tu t'es têtu, tu veux pas perdre la face et tout ça. Il y a les Mesereau qui jouent, les Béchette qui jouent, tu entends les blues de cette époque-là, avec les Tommy Latnier, la première vague que Hugues Panassier a amenée ici, tu écoutes ça, puis tu essayes, tu essayes, tu essayes. Quand la colonie est finie, chacun rentre dans son collège. Et le copain me laisse le saxo. Voilà.
C'est comme ça que ça a démarré.
Voilà, que j'ai jamais payé d'ailleurs.
Il vous retrouvera. En 1956, donc vous échouez, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que vous échouez au bac philo.
C'est
C'est
ça.
ça? Votre père l'apprend, et là,
Ah
patatras.
ben, il était obligé de l'apprendre, hein, je veux dire. Alors, on me coupe les vivres.
Ah.
Évidemment, comme déjà, il apprend que je fais la musique, ça lui plaisait pas spécialement. Je veux dire, tu sais. On n'aime pas les marginaux dans une famille, hein. Personne n'aime ça jusqu'à présent. Quand t'es marginal, t'es pas toujours bienvenu.
Il vous
En
voyait
plus,
plutôt
je...
avocat, médecin, c'est ça,
Ben
ministre?
voilà, à l'image de ce que lui, il a réussi sa vie, comme fonctionnaire, il connaissait pas autre chose. Tu vois. On verra d'ailleurs par la suite, qui comprenait rien à mon succès par la suite, mais ça, on verra ça. Là, naturellement, il me les coupe. Et puis, j'avais donc un ami ivoirien, parce que je fréquentais beaucoup d'Ivoiriens. Hein, toute ma vie, je fréquentais beaucoup plus d'Ivoiriens que de Camerounais. Et donc, il y avait un Ivoirien qui avait un cousin, qui avait un club à Bruxelles. Il me dit, mais va à Bruxelles, tu vas continuer tes trucs là-bas, puisque ça parle français. Tu peux jouer le soir, et puis beaucoup de gens ils travaillent le soir, et puis la journée, ils vont à l'école, quoi. Bon, voilà.
Et là, dans votre tête, c'était clair, vous alliez devenir musicien
Ah
professionnel.
non, ah non, dans ma tête, j'allais à Bruxelles, j'allais continuer, mais grâce à la musique, puisque je pouvais gagner ma vie avec ça, je pouvais payer, faire mes études. Voilà, puisque c'était français à l'époque. Je savais même pas, d'abord, je savais même pas qu'il y avait des Flamands. Alors, c'est pour te dire que nos connaissances étaient un peu limitées, quoi. Donc,
Bonsoir, donc Manu
voilà.
Dibango, et donc demain on poursuivra avec l'aventure bruxelloise.
Bonsoir.
C'était À Voix Nue, toute cette semaine, Jérôme Sandelard rencontre Manu Dibango. Attaché d'émission, Claire Poinsignon. Prise de son, Julien Bourdet. Réalisation, Anne-Pascale Desvignes. Coordination, Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 1000 jours et podcastable pendant un an sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jérôme Sandelard avec Manu Dibango.